préparer le chemin du Seigneur. Ésaïe 57, versets 13 et 14. Amen. Dieu s'apprête à faire des choses, mais il veut, par son esprit, préparer le chemin. Entre autres choses, il veut enlever les pierres qui sont sur la route de son peuple, pour que son peuple puisse marcher librement sur son chemin. Ésaïe 57, versets 13 et 14, ça dit, « Quand tu crieras la foule de tes idoles, te délivrera-t-elle? Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. » Bon, vous voyez dans ces versets-là que la première préparation pour que le peuple de Dieu puisse marcher dans les voies de Dieu est dit au verset 13, « Quand tu crieras la foule de tes idoles, te délivrera-t-elle? Celui qui se confie en moi héritera le pays. » La première préparation, c'est de croire en Dieu, de mettre toute sa confiance en Dieu et de ne rien permettre, quoi que ce soit, qui prenne la place de Dieu dans notre vie. Une idole. Une idole, c'est tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas nécessairement une idole qu'on adore, qu'on se prosterne devant, une statue qu'on se prosterne devant. Ça peut être une chose, un plaisir, un loisir qu'on fait et qui prend la place de Dieu. Quelque chose qui prend beaucoup de notre temps et qui prend la place de Dieu. Toute idole doit être enlevée. Parce que quand une idole est là, ça saisit notre cœur, ça prend l'amour qu'il y a dans notre cœur, ça la dirige vers cette idole-là plutôt que la diriger vers Dieu. Ça fait que ça devient comme une pierre sur le chemin vers Dieu. Ça fait que Dieu dit, enlève les pierres, enlève toute idole, toute fausse confiance, toute confiance en autre chose, placée en autre chose qu'en Dieu. Toute confiance placée en un homme, toute confiance placée en une ressource autre que Dieu. Enlève ça. Enlève ça sur le chemin de Dieu. Que tu aies une foi qui soit centrée juste sur Dieu. Hein? Que notre confiance soit centrée juste sur Dieu. Parce que toute confiance qui est placée sur autre chose que Dieu, ça devient comme une pierre. Ça fait un obstacle. Ça nous empêche de s'approcher de Dieu. Ça nous empêche d'avancer puis de devenir plus proche de Dieu. Psaume 68, verset 5. Psaume 68, verset 5, ça dit « Chantez à Dieu. Célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. » Ça dit, chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. OK. Quand on met notre confiance en Dieu, on place en lui notre confiance. Une bonne façon, justement, de placer en Dieu notre confiance, c'est de chanter. C'est de se réjouir dans sa présence, de se réjouir de ce qu'il a fait. C'est de célébrer son nom. Parce qu'une bonne façon de changer nos pensées, c'est justement au travers de la louange, au travers de l'adoration, au travers d'un chant inspiré. Comme il dit dans l'apôtre Paul, il dit dans Éphésiens, il dit « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur. » La louange, la célébration, l'adoration, c'est tous les moyens que Dieu met à notre disposition pour que notre foi soit centrée sur Jésus, que notre confiance reste centrée sur Jésus et qu'il n'y a jamais de pierre qui puisse nous faire glisser, nous faire tomber sur le chemin. Parce qu'une pierre, ça fait tomber. Ça. S'il y a une pierre sur notre chemin, on risque de buter contre ça et de tomber. Dieu dit, enlève toute pierre de ta propre vie, mais du chemin de mon peuple aussi. Il faut emmener le peuple de Dieu à mettre ses yeux sur Jésus, sur la foi en Jésus. Seulement la foi en Jésus, centrée sur Jésus. Puis un bon moyen, c'est justement au travers de la louange, la célébration. Réjouissez-vous devant lui. La louange, ça prépare le chemin. On voit souvent dans l'Ancien Testament, Dieu dit, quand le peuple d'Israël s'en allait en guerre, Dieu dit, mettez les Lévites en premier avec des instruments de louange, des instruments d'adoration, avec des cymbales, des trompettes. C'était les Lévites qui étaient envoyés en premier. Parce que les Lévites chantaient Dieu, célébraient Dieu, et ça préparait le chemin. Ça préparait le peuple à croire que Dieu va intervenir, que c'est Dieu qui va intervenir. Quand tu te tiens dans la louange, dans l'adoration, tu te tiens dans un climat de foi qui permet que Dieu intervienne. Ça enlève les pierres du chemin. Ça prépare la foi, un cœur qui croit en Dieu. C'est une autre pierre. C'est une autre façon d'enlever les pierres. Chantez, célébrez Dieu. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Tout ça, ça permet la foi de rester dans notre cœur, de s'ancrer en nous. Ésaïe 40, versets 3 à 5. La prédication de Jean-Baptiste. Une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » C'était la prédication de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste prêchait la repentance. Il préparait le peuple de Dieu à recevoir Jésus, à recevoir le Seigneur lui-même venir dans son temple. Cette préparation-là, c'était de préparer le chemin d'enlever les pierres. Puis une autre manière d'enlever les pierres, c'est de te préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Quand il dit que toute vallée soit exaucée et que toute montagne et toute colline soit abaissée, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça parle... La vallée, ça parle de celui qui est humble, de celui qui est brisé dans son esprit, de celui qui est malheureux. Mais Jésus, quand il est venu, il dit « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils sont consolés. Heureux ceux qui ont soif et faim de justice, car ils seront rassasiés. » Ça, c'était les vallées. Jean-Baptiste préparait ceux qui étaient humbles dans leur cœur à croire que la présence de Dieu allait venir, qui allait être relevé. C'est pour ça que Jésus disait « Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à eux. » Parce que la présence de Dieu vient pour celui qui est humilié. Que toute montagne et toute colline soient abaissées, qu'est-ce que ça voulait dire? Une montagne, c'est quelqu'un qui se tient haut, l'orgueilleux. Dans la prédication de Jean-Baptiste, c'était aussi « Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous fermez aux hommes le royaume de Dieu. » C'était aussi de dire, aucun orgueil qui peut se tenir devant Dieu. Il n'y a rien que tu peux te vanter devant Dieu, parce qu'il n'y a personne qui est juste devant Dieu. Il n'y a personne qui est assez bon pour paraître lui-même devant Dieu. Fait que tu ne peux pas te vanter, te relever ta tête, puis te penser juste et te penser bon devant Dieu. Il faut que tu t'abaisses. C'était la prédication de Jean-Baptiste, c'était une prédication de retour à Dieu. Repentance, ça veut dire faire demi-tour, revenir à Dieu, revenir à un sentiment humble devant Dieu, que c'est lui, Dieu, qui est juste, que c'est lui qui est bon, qu'on doit mettre en lui notre confiance, pas dans l'homme, que c'est pas en l'homme qu'il y a la bonté, c'est pas en l'homme qu'il y a de la justice, que notre confiance doit être placée juste en Dieu. C'est encore une prédication de foi et d'humilité, de repentance, de revenir à Dieu. Parce que, alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Ça préparait le chemin à la gloire de Dieu de venir dans la place. La prédication de Jean-Baptiste a préparé le chemin pour Jésus. Ben, nous aussi, on a à préparer le chemin parce que Dieu veut manifester sa gloire. Mais on a à préparer le chemin, comment? En prêchant la foi en Jésus-Christ crucifié. En prêchant un retour à Dieu avec humilité, avec un cœur brisé et contrit, en sachant que ce n'est pas nous, qu'il n'y a pas de justice en nous, que c'est juste Jésus-Christ qui nous justifie, que c'est juste Jésus-Christ qui nous sanctifie. C'était la prédication d'humilité qui enlève les pierres, qui permet au peuple de croire, puis de s'attacher à Jésus-Christ, s'attacher à Dieu. Je parle de ça aujourd'hui parce que enlever les pierres, Yves avait eu peut-être sept visions la même journée. Justement, la première de ces visions qu'il avait eues, c'était des pierres qui s'enlevaient du chemin.
À mesure qu'on marchait.
Il voyait marcher sur un chemin, puis les pierres s'enlevaient. Puis la deuxième vision, c'était un tourbillon de gloire qui venait dans la place, qui nous saisissait. La gloire de Dieu se répandait dans la place. Mais la première des visions, c'était enlever les pierres. C'est comme si Dieu disait, il faut que vous enleviez les pierres dans le cœur de mon peuple. Parce qu'il y a des pierres, il y a des pierres d'incrédulité, il y a des pierres de fausse confiance, il y a des idoles, il y a des pierres d'orgueil qui se tiennent parmi les chrétiens, qui pensent être justes par eux-mêmes, qui pensent qu'à force de prier, qu'ils obtiennent quelque chose de Dieu, à force de jeûner, à force de se sanctifier, comme s'ils pouvaient avoir quelque chose de bon en l'homme. Non. C'est Christ a accompli à la croix notre justification. Christ a accompli à la croix notre sanctification. La foi, notre foi doit être tout entière placée en Jésus-Christ, car c'est lui notre source. C'est lui notre source de santé. C'est lui notre source de vie. C'est lui notre source de justice. C'est lui qui nous justifie, qui nous couvre de la grâce de Dieu, de cette approbation divine. C'est Jésus qui nous la donne. On ne l'acquiert pas à force d'effort, on la reçoit par la foi.
Alléluia.
Mais c'est ça. C'était la première vision, c'était enlever les pierres. Puis c'est pour ça que le Seigneur me montrait, c'est quoi les pierres? C'est quoi les pierres qu'il faut que... C'est quoi que vous prêchiez à mon peuple pour enlever ces pierres d'incrédulité-là? Pour préparer le tourbillon qui s'en vient, le tourbillon de gloire. Parce qu'il y avait... La deuxième vision, c'était un tourbillon de gloire. La troisième vision, c'était une couronne qui... se posait la couronne d'autorité qui se posait en divers lieux. Puis ensuite, il y avait plusieurs visions. C'était l'huile ensuite qui coulait en abondance, les eaux vides qui coulaient en abondance.
Il y avait une progression.
Il y avait toujours une progression. Puis à la fin, on devenait comme les mains, les pieds, on devenait comme les mains du Seigneur, la main de Dieu. En tout cas, c'était les visions que lui avait eues il y a peut-être 6 mois. Mais c'était ça, la première vision. Puis le Seigneur nous ramène toujours là-dessus. Il faut que vous prêchiez la foi et la repentance. Emmenez mon peuple à croire. Enlevez les pierres. Emmenez mon peuple à croire en Christ crucifié. Parce que c'est lui la source. Toute confiance qui est placée en soi-même, en des hommes, en des pasteurs, en des ci, en des ça, c'est pas bon. Ça empêche la gloire de Dieu de se manifester. Il faut vraiment revenir à une foi simple et humble, placé juste en l'œuvre accomplie de Jésus-Christ.
Voilà.
C'est lui notre justice. C'est lui notre sanctification. Ésaïe 62, le verset 10. Ça aussi, c'est un bon verset. Il parle des pierres aussi. Il dit, franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route. Ôtez les pierres. C'est exactement la vision, la première des visions qu'il a reçue. Ôtez les pierres. Puis il va expliquer c'est quoi ces pierres-là. élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Hein? Comment tu enlèves les pierres? C'est en proclamant la prédication de la foi, la prédication de Christ crucifié. En proclamant aux extrémités de la terre, dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui. Le salaire n'est pas en toi. Le seul salaire que nous méritons, c'est la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le salaire que Christ apporte à ceux qui croient, c'est la justice, c'est la sanctification. C'est ton salaire qui le précède. Les rétributions le précèdent. Puis là, qu'est-ce que ça dit? On les appellera peuple saint. Peuple saint. Pas peuple qui est juste en lui-même, qui est saint en lui-même. Non, non. Peuple saint parce que Christ nous a sanctifiés à la croix. Christ a pourvu à la croix, a enlevé toute malédiction qui était sur notre vie. Il a pourvu pour nous une nouvelle nature qui est sainte, qui est pure. On les appellera peuple saint. Quand l'apôtre Paul écrivait aux églises, il disait aux saints qui sont à Éphèse. Il ne disait pas aux pécheurs qui sont à Éphèse. Parce que nous sommes sanctifiés par Jésus-Christ. Pas nous serons sanctifiés. Nous sommes sanctifiés. Sanctifiés, ça veut dire mis à part. On a été sortis du royaume de ce monde, puis on a été placés dans le royaume de Dieu. Transportés, ça dit, dans le royaume de Dieu. On n'est plus dans le royaume de ce monde. L'apôtre Paul disait, « Je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Si le monde est crucifié pour moi, c'est donc que je suis complètement séparé du monde. Il n'y a plus rien. Le monde est mort, puis moi j'appartiens à un autre royaume. J'appartiens au royaume de Dieu. Ça, c'est la proclamation de la foi que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu pour enlever les pierres. Parce que les pierres, c'est toutes ces petites choses qui empêchent les gens, le peuple de Dieu, de croire, puis de venir, puis de goûter la gloire de Dieu. Mais c'est cette proclamation-là que Dieu nous a ordonné de proclamer Christ crucifié. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Christ, notre rédemption. Rédemption, ça veut dire celui qui rachète. Celui qui rachète de l'esclavage. On est des rachetés. On est des gens qui appartenaient au diable. Puis, il fallait payer le gros prix pour nous ravoir, nous racheter. Mais Jésus a payé le gros prix. Comme je disais la semaine passée, c'était impossible à un homme de nous racheter. Mais lui a payé le gros prix de son sang pour nous avoir avec lui. À cause de ce que Jésus a fait à la croix, on est racheté. On n'est pas racheté parce qu'on est bon, parce qu'on est des bonnes personnes. On était des pourris, on était des criminels. On était voués à la mort. Mais on est racheté juste parce qu'on a cru en Jésus, son œuvre à la croix. Le Messie, le Sauveur.
Par la foi.
Ça dit, et toi, on t'appellera recherché bien, non délaissé. C'est ça la proclamation qui enlève les pierres sur le chemin. La proclamation de la foi et de l'humilité aussi. Parce que il n'y a pas de place pour l'orgueil là-dedans. On n'a rien fait. Tout ce qu'on a fait, la seule chose qu'il va y avoir au ciel, c'est les marques qu'on a faites dans les mains de Jésus. C'est les clous que nous, on y a fait à cause de nos péchés. Il ne va rien avoir de fait de main d'homme dans le ciel. L'homme ne fait rien de bon. Notre fabrication d'homme, ça ne donne rien. C'est que dans le ciel, des fabrications d'homme, il n'y en aura pas. La seule chose que l'homme va avoir faite, là, qui va rester dans le ciel, ça va être les clous. Là. On va se rappeler toute l'éternité que nos péchés ont coûté la mort du Fils de Dieu. Parce que ces clous vont être toujours dans ses mains encore. Les trous vont être encore dans ses mains, pas les clous. Les trous vont être encore dans les mains de Jésus.
Et les pieds.
Et dans les pieds de Jésus. Ils sont encore là. Hein, ceux qui voient Jésus.
Et sans côté.
Qui voient Jésus dans les visions, mais ils voient encore les trous qui sont là. Parce que Jésus glorifie encore les trous.
Ouais.
C'est pour nous rappeler que ça a coûté cher au Fils de Dieu. Qu'on doit toujours se rappeler que c'est par lui qu'on est justifié, que c'est par lui qu'on est sanctifié. C'est par lui qu'on est racheté. Et dit au verset 3 du même chapitre, Ce sera une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. C'est sa troisième vision, c'est une couronne éclatante. C'est ça que Dieu veut faire avec nous autres. La couronne de ta tête. Ça veut dire, la couronne de sa tête, ça veut dire la chose la plus précieuse qui est pour Dieu, qui a coûté le sang de son Fils, c'est nous. Ça veut dire qu'on est tellement précieux aux yeux de Dieu. Il nous aime tellement qu'il était prêt à sacrifier son Fils. Nous serons une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Comment qu'on devient une couronne éclatante, un diamant, parce qu'une couronne qui est pleine de diamants, comment qu'on devient un diamant entre les mains de Dieu? C'est en croyant en son Fils. C'est par la foi, en recevant la grâce de Dieu dans notre vie, la grâce de la justification, la grâce de la sanctification, la grâce de la sagesse. Parce que tout ça, c'est des grâces. C'est ce que Jésus a accompli à la croix. C'est disponible. Mais c'est par la foi que moi, je m'approche de Jésus et je reçois sa grâce. J'ai beau être chrétien, si je vis encore dans l'ignorance de ce que Jésus a fait à la croix, je ne reçois pas sa grâce. Si je ne sais pas que la justification, que la sanctification s'est accomplie à la croix, je vais chercher à l'acquérir par mes propres forces, puis je n'aurai pas sa sanctification. Parce que c'est quelque chose que tu reçois par la foi. C'est une grâce. C'est quand tu t'approches de Jésus, tu reçois son esprit, tu laisses son esprit te transformer à son image. Tu baignes dans la présence de son esprit, là il te transforme à son image, là sa sanctification vient sur toi, sa sagesse vient sur toi, sa rédemption. La rédemption, c'est son rachat. C'est aussi le fait qu'on est délivré du pouvoir de l'ennemi, de Satan, qu'on a une victoire définitive acquise à la croix sur Satan.
De toute
tête. Un Pierre, chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Je ne dis pas vous serez. C'est présent. Dès le moment que tu as accepté Jésus dans ta vie, tu deviens une race élue. Une race élue, choisie par Dieu. C'est pas toi qui as choisi Dieu. C'est pas toi qui as connu Jésus, qui as aimé Jésus. C'est Jésus qui t'a aimé. C'est Jésus qui t'a choisi. C'est Jésus qui s'est fait connaître à toi, qui est venu te toucher, qui a touché ton cœur. C'est pas toi qui as touché Dieu, c'est Jésus qui s'est fait connaître à toi. Jésus s'est révélé à toi. Tu es une race élue. C'est ça que ça veut dire justifié. C'est pas nous qui avons obtenu, qui avons acquis à force de nos bonnes œuvres une justice devant Dieu. Non. Nous recevons une justice qui vient de Dieu par la foi, à cause de ce que Jésus a fait à la croix. C'est lui qui a fait. C'est lui qui nous a aimés le premier. Puis parce que lui nous a aimés le premier, on reçoit son amour. On reçoit sa justice, son élection. Il élu, ça veut dire choisi. Ça veut dire Dieu a porté des regards sur nous, puis il nous a couverts, à cause du sang de l'agneau, il nous a couverts d'un manteau de justice. Il nous a adoptés comme siens. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. On n'est pas juste un sacerdoce, c'est-à-dire devenu quelqu'un qui peut... Un sacerdoce, c'était les prêtres, c'était ceux qui servaient Dieu. On n'est pas juste quelqu'un qui devient utile à Dieu, un sacrificateur, mais on est un sacerdoce royal. Ça parle de Christ, notre sagesse, parce qu'il y a un roi qui marche devant nous. On n'est pas juste des sacrificateurs qui portent une croix, mais il y a le roi qui marche devant nous. Porter ta croix, c'est pas quelque chose que tu fais, c'est une grâce. On a reçu la grâce, ça dit, de pas seulement croire en Jésus, mais aussi de souffrir pour Jésus. Donc, porter ta croix, c'est une grâce, c'est quelque chose que tu reçois parce que ton roi marche devant toi. Parce que tu as pris la main de ton roi, tu te dis, Seigneur, je te lâche pas, je te tiens, je te suis. Puis tu m'emmènes. Tu me donnes la grâce de te suivre. Mais c'est ça, c'est le sacerdoce royal. C'est un sacerdoce qui n'est pas comme celui de l'Ancien Testament où les prêtres devaient porter de lourds fardeaux. Non, c'est un sacerdoce royal. On entre dans la maison de Dieu. On entre comme des fils et des filles de roi. Comme celui qui se tient à une position d'autorité, parce que le roi se tient à une position d'autorité. Ça veut dire le sacerdoce royal, on entre dans une position d'autorité avec le roi. Mais c'est Christ notre roi, c'est Christ qui marche devant nous. Ça, ça parle de Christ notre sagesse, parce que c'est lui qui va diriger les choses comme il veut. C'est pas nous qui vont offrir le sacrifice qu'on veut. Non, c'est le roi qui dirige tout sacrifice. Toute bonne œuvre, il l'a préparée d'avance, ça dit. Ça dit qu'on n'est pas seulement sauvé, mais ça dit qu'il nous a préparé des bonnes œuvres d'avance pour nous. Ça veut dire que tout sacrifice, toute bonne œuvre, c'est lui qui va nous donner la grâce, il va nous la montrer, il va nous diriger, puis il va dire « fais ça ». Parce que si on fait quelque chose de nous-mêmes, c'est aucunement agréable à Dieu. Si on fait plein de bonnes choses pour Dieu, on dit « moi je chante pour Dieu, je loue, je prie, je prêche pour Dieu », il y a plein de gens qui font des bonnes choses pour Dieu. Mais ce n'est pas de faire des bonnes choses pour Dieu qui est important. C'est de le faire sous la direction de Dieu. De recevoir, d'obéir au Saint-Esprit, d'obéir au Seigneur. Christ, notre sagesse, de le laisser marcher en avant. De faire juste ce que lui dit. Parce que si tu fais quelque chose, puis Dieu ne l'a pas dit, ça ne sert à rien. C'est une bonne œuvre, mais c'est une bonne œuvre vaine parce que ça vient, c'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu. Christ, notre sagesse, ça veut dire que c'est lui qui va diriger toute chose. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. Le prophète Jérémie disait, c'est pas à l'homme, c'est pas à nous de faire les choses comme on pense que ce serait bon qu'elles soient faites. C'est à Dieu à nous montrer ce qui doit être fait, comment la chose doit être faite. Une nation sainte. Nous sommes une nation sainte. Christ a enlevé toute malédiction. Il nous a mis à part juste pour lui. L'ennemi ne peut pas nous toucher. La malédiction ne peut plus nous atteindre. Nous sommes sanctifiés, nous lui appartenons. Puis parce que nous lui appartenons, ça dit dans Sophonie, tu n'auras plus de malheur à attendre. Le châtiment ne t'atteindra plus. Tu n'auras plus de condamnation, de malheur à t'attendre. On est une nation sainte. L'ennemi ne peut plus nous atteindre. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous prend vraiment sous son aile. Puis même quand on fait des fautes, qu'on commet encore des péchés, même si que lorsqu'on tombe à cause, on fait un faux pas, on n'a pas affaire à l'ennemi. On a affaire à Jésus seulement. Parce qu'on est sous sa protection. C'est Jésus lui-même qui va nous corriger, qui va nous redresser. Pas Satan, Jésus, parce qu'on est ses enfants, on lui appartient. Fait que c'est lui-même qui se charge de nous relever, de nous redresser. Fait qu'on n'est pas sous une condamnation avec Jésus. Quand Jésus nous relève, nous redresse, il ne nous condamne pas. Il nous reprend. Il dit, viens mon enfant, je vais t'aider. Relève-toi, puis continue. Il ne nous laisse pas à terre. Hein. Le péché, c'est comme tomber à terre. Mais il nous reprend, il nous relève. Puis il nous fait marcher. Mais c'est lui qui le fait. Puis Satan n'a rien à faire là-dedans. On est sous son sein, on est sous sa protection. C'est qu'on n'a pas oh Seigneur, j'ai péché. Oh, l'ennemi va faire n'importe quoi dans ma vie. Non. On n'a pas à craindre l'ennemi. Parce que même si on chute, puis c'est plus notre habitude en tant qu'enfant de Dieu, si on pêche, ce n'est pas notre habitude. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus, la parole de Dieu dit. Ce n'est plus dans notre habitude de pécher, mais si on pêche, parce que ça peut nous arriver, on demande pardon de suite au Seigneur, et le Seigneur nous relève, nous redresse, et il va nous corriger. Il va nous habituer à ne plus tomber dans ce piège-là qu'on vient de tomber, à ne plus faire ce faux pas-là. Il va nous fortifier, nous redresser, nous relever, nous bâtir, pour que désormais, on marche comme lui, il veut qu'on marche. Mais c'est lui qui le fait. Il le fait avec amour. Il ne le fait pas avec un. Il vient pas avec un fouette. Jamais. Il ne nous maudit plus. Il n'y a plus qu'une bénédiction en lui. Un parent qui aime son enfant, il va corriger son enfant, mais toujours par amour. Il le fait, ça va faire autant, ça va lui faire autant de mal qu'à son enfant, parce que quelqu'un qui, un parent qui aime son enfant, c'est coûteux, c'est pénible de reprendre un enfant, surtout quand tu l'aimes. Mais tu le fais par amour pour l'enfant. Puis c'est la même chose avec Jésus, il va nous faire par amour pour nous. Un peuple acquis, un peuple acquis, racheté, des rachetés d'Éternel. Christ, notre rédemption. On est acquis. Le prix a été payé. L'ennemi n'a plus aucune portée sur nous. On est vraiment entre les mains de Dieu afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. On est tout ça, c'est pour qu'on l'annonce, on le proclame, on dise que Christ à la croix a suffi pour nous. Quand on parle de tout ça, là, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, ce sont les quatre fondements que l'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 31. Ce sont ces quatre fondements-là que l'apôtre Pierre reprend à sa manière. Mais ces quatre choses-là viennent à cause de l'œuvre de Christ à la croix. C'est qu'on fait juste proclamer ce que Christ a fait à la croix. On proclame ce que Jésus a accompli à la croix. On ne proclame pas notre propre justice, comme le pharisien qui dit, « Seigneur, je te remercie de ce que moi je jeûne deux fois la semaine, que ce que je prie plus que ce pharisien-là, de ce que je donne ma dîme. » Ce n'est pas notre justice qu'on est appelé à proclamer. On est appelé à proclamer, on est appelé à proclamer la justice de Christ, l'œuvre de Christ à la croix, sa sanctification, sa sagesse, sa rédemption, tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que Christ a premièrement porté notre péché. Je l'ai souvent dit, mais je le répète encore. La racine du péché qui nous détruisait, ce péché-là qui avait infesté toute notre vie, qui avait pollué notre vie, Christ, en mourant à la croix, premièrement, déraciné le péché. Il a enlevé la racine du péché. Ça, c'est ce qu'on appelle Christ, notre justice. En enlevant la racine, il a enlevé notre esprit corrompu. Il a mené à la croix cet esprit corrompu-là. Il nous l'a donné un nouvel esprit. C'est ça, la circoncision du cœur, c'est enlever. Il a enlevé l'esprit corrompu de notre vie, puis il nous donne un nouvel esprit, à son image, à sa ressemblance. Exactement comme Ève qui est née de la côte d'Adam. Nous sommes nés de lui. Ça, c'est sa justice. Il nous donne une nouvelle nature, qui est la nature de Jésus lui-même, la nature de pureté, de justice. Ça, c'est sa première œuvre, enlever la racine. Mais il savait qu'en enlevant la racine, cette mauvaise racine du péché-là avait produit dans notre vie toutes sortes de petits bébés, des conséquences de malédictions autour de nous autres. Fait que Jésus, en mourant à la croix, a pas seulement enlevé la racine du péché, mais s'est occupé aussi de toutes les conséquences du péché. Tous les petits rejetons qui avaient eu lieu avant. Les rejetons comme la maladie, malédiction. Toutes les malédictions qui étaient attachées à notre péché. Mais Jésus, ça dit par ses meurtrissures, nous avons été guéris.
Nous avons été.
Par son appauvrissement,
enrichi.
Nous avons été enrichis. Toutes les malédictions que Jésus a portées à la croix, il a porté les conséquences de notre péché, un après l'autre. Toute malédiction. C'est que Jésus, dans son amour, est devenu, oui, notre justice, il a enlevé la racine du péché, mais il est devenu aussi notre sanctification. Ça veut dire que toutes les conséquences du péché, il nous a vraiment mis à part pour lui. Ça veut dire que toutes les conséquences du péché, c'est comme si l'homme aurait commis un acte criminel. À cause de cet acte criminel-là, il aurait dû subir 15 ans de prison, 20 ans de prison, 30 ans de prison. Mais Jésus a subi la peine de notre péché, ça dit ça. Il a subi la peine de notre péché. Donc c'est comme, à quelque part, c'est comme toutes les peines, la maladie, la pauvreté, la malédiction. Il a tout pris ça. Il nous sépare complètement à la croix.
Alléluia.
Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Il nous sépare de toutes ces conséquences du péché.
Une fois pour toutes. Alléluia.
Mais Jésus n'est pas resté là. Il n'a pas été seulement notre justice qui a enlevé la racine du péché. Il n'a pas été seulement notre sanctification qui a enlevé toutes les conséquences autour de nous autres, les malédictions. Il était plus loin que ça encore. Mm-hmm. Il est devenu notre sagesse. Pourquoi? Qu'il est devenu notre sagesse? C'est parce que dans l'Ancien Testament, les Juifs étaient mis sur la garde de la loi, ça dit. Mm-hmm. Ils étaient obligés d'obéir à la loi pour les protéger. Pour... La loi était supposée leur donner la vie. Mm-hmm. Mais la loi était tellement rigide qu'ils étaient incapables de l'observer. Mm-hmm. Fait que Jésus, quand il est mort à la croix, il ne devait pas seulement enlever la racine du péché puis enlever les conséquences, il a pensé aussi à enlever la loi. Ça dit que la loi a été annulée, a été clouée. Les ordonnances de la loi ont été clouées à la croix aussi. Ça veut dire que la loi qui nous condamnait a été mise à la croix. Il nous a mis sous la garde du Saint-Esprit. Alléluia. Sous la garde, non plus de la loi, mais sous la garde du Saint-Esprit. C'est ça, Christ, notre sagesse. Nous sommes placés sous la garde du Saint-Esprit. C'est merveilleux quand tu penses à ça, parce que il aurait pu nous laisser sous la loi, mais non. Il a dit, moi, je vais m'occuper de tout. Il n'a rien laissé au hasard. Il savait que s'il nous laissait encore sous la garde de la loi, on aurait peut-être commencé à vivre dans le péché. On aurait trouvé ça dur. Oh, Seigneur, il faut obéir à ça, 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 ça. Ça n'aurait pas fini les ordonnances. Mais Dieu a dit non, je vais leur mettre une grosse maman céleste, le Saint-Esprit.
Maman Saint-Esprit! Wow!
Parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui s'occupe de nous. Puis lui, il est comme un consolateur. Il veille, il voit, là, il va prendre. C'est comme, c'est lui qui nous fait marcher comme la mère qui fait marcher son enfant qui a rien bébé. Qu'un an. Qui commence à marcher sur ses deux pattes. Bébé. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Qu'il dit, viens, je vais te montrer. La loi sortira de Sion, ça dit. Sortira plus du mont Sinaï, où la loi de Moïse est sortie, de Sion, ça veut dire d'en haut, du lieu céleste, du Saint-Esprit venu du ciel. Ça, c'est la promesse que Dieu nous a laissée. Christ, notre sagesse. Troisième fondement du salut que Christ a accompli la loi. Pourquoi? Parce que la loi, ça dit que les ordonnances de la loi, l'apôtre Paul dit, ils ont été placées sur la croix. Quand Jésus-Christ a eu sur la tête, a eu... Au-dessus de la tête, les ordonnances écrites, celui-ci est le roi des Juifs. Il portait tout le fardeau de la loi sur lui. La malédiction de la loi, il la portait toute sur lui. Pour que nous ne soyons plus sous la malédiction de la loi. Soyons placés sous la garde du Saint-Esprit. Enfin, il y avait un dernier ennemi. Parce que là, il y avait le péché, les conséquences du péché qui sont enlevées. Il y a la loi qui est enlevée, mais il y avait un dernier ennemi qui devait être vaincu à la croix. Le plus grand, Satan lui-même. Parce que c'est lui qui a fait chuter Ève puis Adam dans le péché. Ce diable, ce serpent ancien, devait lui aussi être cloué à la croix, crucifié à la croix. Puis c'est ça, Christ, notre rédemption, ça parle du rachat par rapport à Satan. On est délivré du pouvoir de Satan.
Pouvoir
ça dit qu'à la croix, Satan a été traîné sous un char triomphal en arrière de Jésus-Christ. Jésus disait, dans Jean, ça dit, le prince de ce monde est jugé. Il dit, je m'en vais à la croix, là. Mais il dit, c'est le prince de ce monde qui va être jugé. Il faut bien savoir que quand Moïse a élevé le serpent d'airain sur un poteau, puis il a dit, tous ceux qui vont regarder le serpent d'airain vont être guéris. Jésus a dit, ce serpent d'airain-là que Moïse a élevé, ça représentait Jésus mort sur la croix. Ça le représentait lui qui allait mourir sur la croix pour les péchés du monde. Puis par lequel on allait être guéri. Mais il faut remarquer que sur le bâton que Moïse a élevé, c'est un serpent. Puis c'est une image. C'est une image parce que oui, c'est Jésus qui est mort sur la croix. Mais en mourant sur la croix, il a mis le diable là.
Alléluia!
Il a placé le diable à la croix. Oui. C'est exactement l'image qu'il y a dans le livre d'Esther. Mm. Parce que ça dit que Haman, l'ennemi des Juifs, avait fait bâtir une grosse potence pour y pendre Mardoché. Mm-hmm. Il avait construit une potence, une croix, on peut dire, pour Mardoché. Mais par un revirement de situation, par l'intervention de Dieu, c'est qui s'est retrouvé sur la potence?
Haman.
Haman lui-même.
Yeah!
Et l'ennemi des Juifs s'est retrouvé sur la potence.
Woo!
C'est la même chose pour nous autres.
Hein?
C'est Jésus qui est mort sur la croix.
Mais
quand Jésus est mort, c'est le diable qui s'est retrouvé là. C'est le diable qui a été dépouillé.
Son pouvoir, sa puissance,
de sa force.
Au nom de Jésus.
Et sa nature.
Ça veut dire que l'image qu'il y a dans le livre d'Esther par rapport au fait que c'est Haman qui s'est retrouvé sur la potence préparée pour Mardoché, mais c'est la même chose avec Jésus. C'est Jésus qui a été crucifié, mais aujourd'hui, c'est le diable qui se retrouve là. Pour toutes les croyants. Toutes les croyants en Jésus-Christ, c'est le diable qui est vaincu à la croix.
C'est notre héritage.
C'est notre héritage.
Maintenant.
C'est ça qu'on doit proclamer. C'est ça qu'on doit proclamer, la foi, la prédication de Christ crucifié, la prédication de la foi qui enlève les pierres d'incrédulité. Parce que c'est tout accompli. Quand tu regardes ce que Jésus a fait, il n'y a rien laissé au hasard.
On marche pas par la vue, on marche par la foi.
Absolument rien laissé au hasard. Dieu a tellement bien préparé notre chemin que c'est presque vraiment difficile de chuter. C'est presque vraiment difficile de chuter tellement qu'il a bien préparé notre chemin.
Il a tout prévu.
Je le répète, il a enlevé la racine du péché, Christ notre justice. Il a enlevé les conséquences qui étaient autour du péché. Il les a garochées loin de nous. Toute malédiction, toute maladie. Christ, notre sanctification. Ensuite, il s'est chargé de la loi qu'on ne pouvait plus supporter.
Hallelujah!
C'était trop difficile à pratiquer. Il nous a mis le Saint-Esprit lui-même. La garde, le consolateur, parce qu'il l'a appelé le consolateur. Consolateur, c'est celui qui dit, comme une mère console son fils, ainsi je vous consolerai. L'image du consolateur, c'est l'image de la mère qui console son fils, son enfant, sa fille. C'est le Saint-Esprit.
Saint-Esprit, mère!
Et c'est le gage d'amour de Jésus l'époux.
C'est lui qui nous amène. C'est comme la mère qui amène son fils ou sa fille au mariage, qui la prépare pour le mariage. La fille, il faut que tu sois belle là, parce que tu t'en vas te marier. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait
le
ça.
Le bonheur, le bliss.
Le Saint-Esprit, il nous prépare pour l'époux qui est Christ. Lui, il nous met des atours, il nous met des bijoux, il nous met des beaux vêtements. C'est le Saint-Esprit qui fait tout ça. Puis la dernière chose, la plus grande, la plus merveilleuse, c'est Christ, notre rédemption. C'est que Satan a été cloué à la croix.
Vaincu,
dépouillé. Nous n'avons plus à le craindre. Nous avons à prendre ce que Christ a accompli à la croix pour nous. Il a sonné là-dessus.
On a tout réussi sur lui.
A vaincu l'ennemi. Puis il est obligé de céder la place. Puis on peut faire comme Esther et Mardoché. Ça dit qu'ils ont dépouillé les ennemis des Juifs. C'est eux qui devaient être dépouillés. Par un revirement de situation, ça dit que c'est eux, les Juifs, qui ont dépouillé leur ennemi. Hein? C'est la même chose. Dieu nous prépare les dépouilles de Satan. Tout ce que Satan a tellement mis la pogne dessus, les âmes qu'il a liées, qu'il a captivées, qu'il a mis en prison, ces âmes-là vont nous retenir par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens que Dieu veut emmener au Seigneur aussi. La gloire de Dieu s'apprête à venir, mais il faut comme préparer le chemin. Parce que Dieu veut trouver la foi. Trouverai-je la foi quand je
reviendrai sur terre?
C'est la même chose aujourd'hui. C'est comme si Dieu dit, je veux agir, ma gloire s'apprête à venir. Mais il faut qu'il y ait un cœur bien disposé, un cœur rempli de foi, d'humilité. Parce que la vraie foi est pleine d'humilité aussi. C'est pas une foi orgueilleuse. Les pharisiens, ça dit qu'ils ont rejeté le plan de Dieu à leur égard parce qu'ils ne se sont pas humiliés. Ils n'ont pas été au baptême de repentance que Jean-Baptiste prêchait. Ils ne se sont pas humiliés, puis parce qu'ils ne se sont pas humiliés, la foi n'a pas pu les atteindre non plus.
Ils ont annulé aussi l'efficacité de la parole de Dieu par les traditions.
C'est ça.
Par les traditions.
À cause de leur orgueil.
Ils ont annulé la puissance transformatrice de la parole de Dieu dans leur vie par la tradition des hommes. Mm. C'est clair. Mm. C'est la tradition des hommes.
Ouais. Amen.
Mm. Alléluia.
Alléluia.
Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.
Amen.